Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique.
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Lorsque le Vésuve a enseveli Herculanum, il a aussi enseveli une somptueuse villa qui abritait une bibliothèque contenant des centaines de volumes de philosophie. La chaleur a carbonisé les papyrus sans les transformer en cendres. C'est justement cette chaleur qui, par un étrange paradoxe, en a préservé certains. C'est ainsi que, du fond de la catastrophe, rejaillissent parfois des phrases fulgurantes telles ceci, fragment d'un traité sur la rhétorique du philosophe épicurien Philodème de Gadare, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Aucune science ne peut proférer un mot si elle est privée de l'aide des métaphores. Ce sera la devise de notre cours, à nous d'en mesurer la portée et d'en comprendre les raisons. Revenir sans relâche aux sources alors que tout paraît se transformer sous nos yeux, tel est le défi d'un juriste historien. Après une année sabbatique, je reprends mon enseignement. Heureux de renouer le fil du dialogue avec vous. Mais je ne peux m'empêcher de penser que ce fil aujourd'hui plus ténu que jamais. L'histoire s'accélère à un rythme si soutenu qu'il devient parfois difficile de mesurer la distance qui s'est creusée avec le monde d'hier lorsqu'on se retourne en arrière, ne serait-ce que de quelques mois. Ce ne sont pas seulement les nouvelles technologies qui transforment notre rapport au savoir, jusqu'aux modalités même de sa production. Dans bien des pays, c'est l'état de droit qui se trouve aujourd'hui remis en question, cette enveloppe précieuse et fragile des garanties, des droits et des devoirs, dont le droit romain et le droit européen constituent la matrice, en dépit du fait qu'on a pris l'habitude de l'appeler « rule of law ». Dans une telle conjoncture, s'intéresser au savoir juridique dans la longue durée, en prenant l'Antiquité comme un point de départ, peut sembler une entreprise téméraire. Et pourtant, cette exploration peut nous aider à raviver notre capacité de lire et évaluer le présent depuis un observatoire qui n'est pas submergé par le flux des événements. Le passé n'est pas un refuge. L'étudier avec un regard à la fois accueillant et critique est une manière de recommencer chaque jour sans reculer. Le passé, pourtant, ne se donne pas immédiatement à percevoir. Il se reconstruit à partir de ses traces, parfois archéologiques, les plus souvent textuelles. Mais toute lecture est une rencontre. Nous lisons les textes écrits par les anciens toujours depuis un angle particulier, à partir d'un problème ou d'un intérêt qui nous tient à cœur. Le tout est de choisir un angle qui soit autant que possible capable de faire ressortir la pensée des anciens plutôt que de la dissimuler sous nos propres projections. Cela vaut tout particulièrement pour la pensée juridique. J'ai donc choisi les métaphores. Les métaphores comme angle à partir duquel interroger leur texte. La métaphore est une figure du discours par laquelle le langage s'écarte de son usage le plus habituel. C'est précisément dans cet écart que l'imaginaire du locuteur se manifeste avec le plus de netteté. Je dirais qu'une métaphore ressemble à une voix qui se brise. Et c'est souvent dans cette fêlure que l'émotion se révèle. Pour le droit, cela est encore plus décisif. Car avec les mots, les juristes créent un monde. Ils ont donc particulièrement besoin de métaphores pour donner un nom à ceux qui n'en ont pas. Ce faisant, ils laissent entrevoir leur valeur. Les juristes aussi ont des valeurs. Et puisque nous sommes les héritiers du langage romain, du droit, Ces métaphores continuent souvent de flotter dans notre langage et d'une certaine manière de penser pour nous. Les explorer signifie donc devenir davantage maître de notre propre pensée et en même temps mieux comprendre les anciens, écouter plus attentivement là où leur voix marque un écart. Mais au fond, que faut-il entendre par métaphore ? Cette année, un mercredi sur deux, juste après mon cours, des conférences données par d'autres spécialistes proposeront leur réponse à cette question. Ce cycle aura la particularité de présenter tour à tour le point de vue de la rhétorique classique et celui de la linguistique cognitiviste la plus récente. Nous commençons aujourd'hui avec un grand spécialiste de la rhétorique antique, Laurent Pernaud, membre de l'Académie des inscriptions des belles-lettres. Sa conférence s'intitule « Le tour le plus fréquent » et de loin les plus beaux, les théories grecques et romaines de la métaphore. Elle se tiendra dans cette même salle à 16h et je vous invite à y assister avec moi. Je considère néanmoins utile de vous présenter quelques points de repère qui nous serviront par la suite à mieux mener l'analyse des textes, même si certains d'entre eux seront développés plus en profondeur dans la conférence qui suit. Commençons donc inévitablement par Aristote. Selon la définition d'Aristote, la métaphore consiste à imposer à une chose le nom d'une autre. Elle opère par déplacement. Un mot quitte son sens propre pour désigner autre chose. Alors, c'est un fonctionnement, si vous y réfléchissez, déjà inscrit dans l'étymologie du mot. Parce que le mot « métaphora » dérive du préfixe « méta », au-delà, et « ferein », du verbe « ferein », donc « porter », donc « transporter ». Donc c'est un transfert. Ce transfert repose souvent, je souligne l'adverbe « souvent », sur une analogie, sur une ressemblance entre la chose dont on emprunte le nom et celle à laquelle on l'applique. Vous savez tous, vous l'avez à l'esprit, le col de la bouteille. Donc vous voyez l'analogie. Mais il n'y a pas que l'analogie comme fondement de la métaphore. Et pourtant, pour Aristote, la métaphore fondée sur la ressemblance est la plus répandue et la plus féconde sur le plan cognitif. L'esprit sagace, dit-il, est celui qui perçoit des analogies entre des réalités éloignées. Il faut toujours croire à Aristote, donc après, on peut se questionner qu'est-ce qu'il veut dire, mais bon. Dans la tradition latine, Cicéron et Quintilien reprennent cette même conception. Donc une conception qui valorise davantage l'analogie, mais pas que. Alors, d'abord, le mot latin pour métaphore, translatio, n'est qu'un calque du mot grec, trans, et latio qui vient du verbe fero, donc porter. Quintilien propose en outre une typologie des métaphores basée sur le rapport entre la teneur et le foyer. Alors, dans une métaphore, la teneur est l'élément dont on parle, tandis que le foyer ou le véhicule est le mot figuré utilisé pour l'exprimer. Alors, donc, cette typologie est fondée sur le rapport entre, disons, le mot qu'on souhaite, le concept qu'on souhaite exprimer et le mot qu'on utilise, entre le foyer et la teneur. Donc, on peut avoir la substitution d'un animé à un animé. Par exemple, lorsque nous parlons de pilote, pour qualifier le conducteur d'une voiture. Vous réfléchissez, je sens vos cerveaux, pourquoi. Mais bon, je vous promets que c'est la substitution d'un animé à un autre animé. Substitution d'un inanimé à un inanimé. Tenir le cap pour ne pas changer de stratégie politique. D'accord, réfléchissez ici. D'une animée à un inanimé, d'une inanimée à un animé. Les fusils pour les soldats. Ça, c'est clair. Et enfin, substitution d'un animé à un inanimé. La tête d'un cortège. Alors, ces exemples invite à nous arrêter toujours dans le sillage des traités antiques sur un aspect fondamental, celui de la fonction des métaphores. À quoi est-ce que les métaphores servent? Alors, Cicéron et Quintilien aussi distinguent deux fonctions principales. D'une part, celle de suppléer au manque des termes propres pour exprimer des objets et des concepts. D'autre part, la fonction d'orner le discours. La métaphore répond donc d'un côté à nécessité, necessitas, et de l'autre, elle produit du plaisir, le plaisir du texte, delectatio, jucunditas. Alors, dans la perspective de Cicéron et de Quintilien, il faut dire que c'est l'aspect de l'ornement, du plaisir qui prévaut. Car ils traitent de la métaphore dans le cadre, dans leur traité de rhétorique, ils en traitent dans le cadre de ce qu'on appelle l'élocutio, c'est-à-dire la manière de formuler le discours. Donc, ils s'en occupent à propos du style et notamment à propos de l'ornatus, donc de l'ornement, c'est-à-dire des figures qui donnent au discours plus d'éclat ou de force. La métaphore est donc envisagée principalement comme l'un des procédés stylistiques destinés à embellir le discours. Le plaisir qu'elle procure dépend de la capacité du langage figuré à frapper les sens, en particulier la vue, c'est-à-dire à mettre les choses sous les yeux. De là, il faut le dire, vient aussi la mauvaise réputation dont jouit parfois, même souvent, la métaphore. Considérée comme un ornement vain, un bijou de trop, un maquillage qui essaye de cacher les défauts du visage, les défauts du discours, les défauts de la substance du discours. Comme nous le verrons, et comme l'avait déjà bien vu Philodème de Gadare dans le fragment de notre devise, ce que les détracteurs de la métaphore ne perçoivent pas, c'est qu'elle remplit bien d'autres fonctions, parfois très profondes, et surtout que nous produisons des métaphores sans cesse. En particulier, elles répondent à la fonction, à la nécessité d'élargir le lexique en donnant un nom à ce qui autrement n'en posséderait pas. L'aboutissement normal en est la catacrèse, c'est-à-dire une métaphore lexicalisée entrée dans le lexique commun ou spécialisé, et qui n'est plus perçue comme telle. Par exemple, un terme comme « divorce », si vous y songez, vous pensez que c'est un terme juridique technique. En réalité, le mot « divorce » vient du latin, du préfixe « dis », qui exprime la séparation, et du verbe « vertere », c'est-à-dire se détourner, s'orienter. Donc, étymologiquement, divorcium désigne le fait que les époux qui suivaient jusque-là le même chemin prennent chacun leur voie. La rupture du lien conjugal, c'est une notion juridique, la rupture du lien conjugal est conceptualisée par métaphore comme un mouvement spatial. Mais aujourd'hui, nous ne percevons plus cette image dans le mot. Donc, une catachrèse. Voilà. Dans la langue du droit, cette fonction d'enrichissement lexical assurée par les métaphores revêt une importance considérable, puisque le droit a affaire avec des phénomènes qui sont souvent des concepts, donc qui n'existent pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne voit pas. Donc il faut leur donner un corps. Il faut emprunter un mot pour les exprimer. Donc le procédé métaphorique est particulièrement utile pour les juristes. Vous en voyez ici un certain nombre, il s'agit de mots latins, je les ai laissés en latin, pas seulement en raison du respect que je vous porte, mais aussi parce que vous allez très aisément voir, disons, l'héritage, le legs que ce vocabulaire a laissé dans les langues romanes et notamment dans le français juridique. Mais il n'y a pas que la fonction d'élargissement lexical et d'ornement stylistique. À côté de ces deux fonctions sur lesquelles insistent les anciens, je voudrais en signaler une troisième qui me tient particulièrement à cœur, la fonction argumentative. Voyons-en un seul exemple que j'emprunte à Cicéron, qui le tirait lui-même du domaine juridique. Alors, la loi des 12 tables, la plus ancienne législation romaine des 451-450 avant Jésus-Christ, contient une norme qui dit « Si telum manu fugit, magis quam iecit. Si telum manu fugit, magis quam iecit. Si l'arme a fui de sa main, plutôt qu'il ne l'a lancé. » Alors, très intéressant, le langage très, disons, elliptique de la loi des 12 tables se sert de ce changement des sujets, parce que vous voyez que dans la première partie de cette proposition conditionnelle, dans la protase, vous voyez qu'on parle que le sujet est l'arme. Tandis que dans l'apodose, il s'agit de l'homme. Donc, il. Donc, vous voyez qu'il y a ce changement que le lecteur comprenait. Par ailleurs, vous savez que la loi des 12 tables a un fond d'oralité. Donc, il faut la comprendre aussi en tant que texte oral qui a été mis par écrit. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, cette norme exprime ce qu'on appelle aujourd'hui l'homicide involontaire ou même préintentionnel. Deux figures qui désignent le fait de causer la mort sans intention de la donner. En disant « si l'arme a fui de sa main plutôt qu'il ne l'a lancée », loi des 12 tables décrit cette catégorie que nous voyons ici, cet article, c'est celui de l'homicide involontaire, donc vous pouvez faire tout de suite, d'emblée, la comparaison entre la façon de s'exprimer dans la loi de 12 tables et la façon de s'exprimer dans le législateur moderne, contemporain. Donc vous voyez la différence de style. Mais du point de vue conceptuel, on peut se dire qu'il s'agit de deux définitions, deux façons différentes de donner une définition d'un délit. Nous allons voir quelle est l'aura, quel est l'effet d'avoir employé cette métaphore. Alors, d'abord, c'est une métaphore qui substitue l'animé, c'est-à-dire l'auteur de l'homicide, par un inanimé, c'est-à-dire l'arme. Donc vous voyez ce genre de substitution. Mais cette métaphore, elle contient déjà un argument. Et c'est ça qui est très intéressant. Parce qu'il est évident que si c'est l'arme qui a échappé à la main, l'homme ne devra pas être puni. Comprenez ? C'est une métaphore, donc c'est une façon de décrire un événement, mais c'est une façon aussi de donner déjà une sorte de qualification à l'événement. Cette phrase incorpore déjà une évaluation juridique. Et c'est exactement comme ça que les 12 tables comprennent cet événement, parce que les 12 tables demandent aux responsables de l'homicide d'offrir un animal en sacrifice de purification sans le punir davantage. Vous voyez, c'est l'arme qui a échappé de sa main. Alors, vous voyez, j'insiste beaucoup sur la fonction argumentative qui souvent nous échappe de la métaphore, parce que la métaphore ici se situe à la frontière entre le style, bon, c'est une phrase assez frappante, si vous voulez, le lexique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment de 12 tables, il n'y avait pas la notion d'homicide involontaire ou d'homicide préintentionnel. Donc il n'y avait pas le mot. Donc il fallait nommer, il fallait décrire, exprimer cet événement. Donc, cette métaphore répond à la fonction stylistique, la fonction lexicale, mais aussi à la fonction argumentative, parce qu'elle préoriente l'espace dans lequel certaines conclusions deviennent plus acceptables que d'autres. Parce que vous comprenez que si on écrivait ces propos en le faisant suivre d'une punition frappant l'auteur, on serait devant une sorte de contradiction avec cette métaphore. Alors, faisons un point intermédiaire. En ce qui concerne la théorie classique, la métaphore est le transfert d'un mot ayant un certain sens pour en désigner un autre. Souvent, ce transfert, on l'avoue, se fonde sur une analogie, mais pas que. La métaphore peut consister en la substitution d'un animé à un animé, d'un inanimé à un animé, et vice-versa. Quant à sa fonction, elle peut en avoir une ornementale ou d'élargissement lexical ou encore orientatif. Alors, jusqu'ici, la thématisation classique qui comportait évidemment bien d'autres précisions sur lesquelles je n'insiste pas maintenant. Mais après avoir été intensément étudiée dans l'Antiquité, puis être tombée en disgrâce comme une grande partie de la rhétorique tout entière, la métaphore a connu un extraordinaire regain d'intérêt à partir des années 1970, donnant naissance à ce que l'on appelle la théorie de la métaphore conceptuelle. Issue de la rencontre entre la linguistique et les sciences cognitives. Au XXe siècle, le tournant cognitif a profondément renouvelé l'étude de la métaphore, notamment avec George Lakoff et Mark Johnson en 1990. La métaphore est vue comme structure fondamentale de la pensée. Et cette théorisation ne contredit pas, c'est très important, parfois on se trompe un peu en faisant un peu une séparation entre ces nouvelles approches et la théorie classique, ce n'est pas du tout le cas, et je pense aussi que dans la théorie classique, il y avait beaucoup d'intuitions qui allaient dans le même sens. Alors, donc, il n'y a pas de contradiction avec la théorie classique, mais ces nouvelles approches viennent la compléter. Alors, dans la théorie de Michele Prandi, qui sera l'un des intervenants du cycle des séminaires dans deux semaines, le 25 mars, et qui est probablement le chercheur qui a proposé la théorie contemporaine la plus cohérente du fonctionnement de la métaphore, la condition même de la métaphore est les conflits conceptuels. C'est un conflit. La base de la métaphore est un conflit conceptuel. Le conflit apparaît lorsqu'un prédicat ou un terme appartenant à un certain domaine conceptuel est appliqué à un objet relevant d'un autre domaine dont les propriétés sont en principe incompatibles avec celles du premier. Les traits constitutifs du concept transféré ne s'accordent pas littéralement avec ceux de l'objet auquel il est attribué. Comme lorsque je dis d'un ami « Jacques est un ours » ou « Marielle est un roc ». Donc, il y a un conflit, évidemment, un conflit conceptuel. Mais cette incompatibilité initiale, qui crée une tension sémantique, la métaphore ne supprime pas ce conflit, justement. Il y a un conflit, la métaphore ne supprime pas ce conflit. Elle le rend interprétable. Donc, toujours, lorsque nous rencontrons une métaphore, il nous faut faire un effort d'interprétation, parfois plus évident, plus lourd, parfois presque, disons, imperceptible, comme lorsque nous rencontrons une catacrèse, mais il y a toujours un conflit qu'il faut déjouer. Et comment est-ce qu'on l'interprète? Nous sélectionnons certains traits pertinent du concept d'origine et nous le projetons sur le domaine cible, sur la teneur, produisant ainsi une nouvelle cohérence. Alors, dans les métaphores conventionnelles, c'est plus simple, le pied de la table, faisons aucun effort, parce que c'est le seul mot disponible. Dans les métaphores ainsi dites vives, vivantes, le conflit reste perceptible, exerce une fonction heuristique en reconfigurant l'objet, la représentation de l'objet. Alors, vous comprenez, s'il y a un conflit conceptuel et que l'interprète est invité à essayer de dénouer, réduire ce conflit, c'est par une sorte d'opération qui projette sur l'objet qu'on exprime certains des traits conceptuels qui viennent du mot qu'on emploie. Mais ainsi faisant, on transforme l'objet qu'on nomme. Donc la métaphore a toujours une sorte d'effet des connotations, donc enrichit l'objet qu'on exprime. Alors, écoutons de vers célèbres de la chanson d'automne de Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Alors, ces vers sont traversés par tout un essaim de métaphores. Les vents d'octobre et de novembre est transformé en violon. On pourrait dire qu'une chose inanimée est représentée par une autre chose inanimée. Mais comme ces sons deviennent des sanglots, cela implique que ces violons et le vent lui-même sont aussi un être animé qui pleure. Ajoutons que puisque le cœur en est blessé, les sons sanglots sont à leur tour transformés en quelque chose de matériel qui coupe et blesse, comme les flèches ou des couteaux. Tandis que le cœur, lui, est transformé métaphoriquement d'un organe corporel en une attitude de l'esprit. L'ensemble transmet un sentiment de langueur, de tristesse et justement de monotonie. Une monotonie non pas musicale, mais sentimentale. C'est la vie qui dépérit Et métaphore suprême au sein de cet essaim de métaphores, l'automne est aussi l'image de la vieillesse. Ces deux vers sont traversés par une dynamique de conflit sémantique qui fait qu'une partie des significations se déplace d'un mot à l'autre. Ces conflits se dénouent dans un accroissement des connotations dans tout un jeu de vibrations sémantiques que le lecteur décode grâce aussi à la parfaite scansion par le rythme et la rime. Il s'agit de ce qu'on appelle des métaphores vives, vivantes, parce que les violons de l'automne ne sont pas entrés dans l'usage pour dire le vent de novembre, bien évidemment. On comprend, c'est entré dans l'usage, l'image poétique, mais ce n'est pas la façon dont nous appelons le vent de novembre. Nous percevons cette expression encore comme une métaphore, nous la percevons comme une métaphore, nous savons qu'il y a un conflit conceptuel et elle exige un acte d'interprétation pour produire du sens. En revanche, l'expression « le pied de la table » a déjà résorbé le conflit conceptuel initial, tout comme « amphithéâtre » pour nommer cette salle Alvax ou toute autre salle universitaire, ou en droit des notions comme action, obligation, servitude. Le transfert est devenu stable, il enrichit durablement le lexique spécialisé. Alors, un dernier point de repère. Qui va être utile dans nos analyses de sources, la linguistique cognitive distingue métaphore structurelle. Par exemple, la vie est un voyage. Pourquoi elle est structurelle? Parce que, on peut se dire, on utilise parfois cette expression, la vie est un voyage, mais surtout, c'est un concept créateur d'autres métaphore. Par exemple, aujourd'hui commence une nouvelle étape. Hein, vous voyez, il y a derrière, comme arrière-plan, cette idée, la vie est un voyage, où il ne faut pas prendre de détours dans la vie. C'est une image, un concept qui engendre d'autres métaphores. Il y a aussi d'autres métaphores qu'on appelle spatiales, haut, bas, dedans, dehors. Par exemple, les droits fondamentaux sont ceux qui sont en bas, au fondement. Vous voyez, c'est une métaphore à la fois ontologique, parce que c'est l'idée d'un bâtiment, mais aussi c'est une métaphore qui utilise, disons, l'espace comme système d'évaluation. Donc ce qui est en bas, dans ce cas, c'est ce qui donne de la solidité à la structure. Ensuite, enfin, il y a des métaphores ontologiques très importantes pour nous qui traitent de réalités abstraites comme des entités ou des corps. Alors, mon cours met justement l'accent sur ce genre dernier de métaphores, les métaphores ontologiques, notamment les métaphores corporelles, qui donnent en quelque sorte un corps au concept. J'en aborderai pendant tout au fil des séances cette année aussi d'autres types de métaphores, pas seulement celles corporelles, car les métaphores, un peu comme ces joueuses d'Astragal, dans cette merveilleuse fresque d'Herculanum, les métaphores ont cette propriété de s'attirer l'une l'autre. Vous l'avez vu avec les vers de Verlaine, par exemple. Mais aujourd'hui, justement, comme il se doit, commençons par la métaphore qui encadre un peu le cours, c'est-à-dire celle du corps du droit. Alors, vous savez que c'est Justinien qui, alors que l'Empire romain touchait à sa fin et l'Antiquité s'apprêtait à se transformer en Moyen Âge, entreprit de réordonner les droits de Rome. Nous sommes au VIe siècle de notre ère. J'imagine que vous avez apprécié qu'on, je ne vais pas recommencer sans vous redonner les notions qu'on a essayé de s'aimer pendant ce cours. Donc on fait un peu de rattrapage. Alors, Justinien confia à un cercle d'intellectuels dans et autour de sa cour la mission de réorganiser les écrits des juristes dits classiques, c'est-à-dire de ces experts qui, au moins depuis 200 avant Jésus-Christ, donc il y a à peu près 7 siècles du moment où une littérature a commencé à apparaître et le moment où Justinien a décidé d'en faire, disons, un recueil. Donc, ce sont des experts qui, au moins depuis 200 avant Jésus-Christ, avaient exercé la fonction de conseiller les particuliers, les juges et les pouvoirs publics en matière de droit. Certains de ces juristes, de ces experts, avaient consigné leurs réflexions par écrit, donnant naissance à une vaste littérature, l'un des produits culturels les plus caractéristiques de la culture romaine. C'est de cette littérature que Justinien entend produire une anthologie. De ce travail naquit le Digeste, publié en 533, auquel nous reviendrons souvent lors de nos séances. Parce qu'il s'agit du recueil par le biais duquel la plupart des textes des juristes romains nous est parvenu. Dans la foulée, les collaborateurs de Justinien, dirigés par Tribonien, produisirent également un manuel destiné à l'enseignement, les Instituts, Institutiones, fondé sur les instituts d'un juriste du IIe siècle après Jésus-Christ, Gaius. L'entreprise de Justinien comprenait également la collecte des constitutions. Alors, le mot constitution, nous l'avons, mais c'est un mot qui a une signification différente, juridique tout à fait dans l'Antiquité, mais il ne s'agit pas, disons, de la loi fondamentale d'un système juridique, mais il s'agit plutôt de normes juridiques promulguées par les empereurs. Alors, donc, il y a eu pendant la période impériale romaine une série de constitutions qui ont été de normes juridiques qui ont été promulguées par les empereurs, et Justinien, parmi ses buts, a aussi celui de réorganiser, recueillir les constitutions, les normes promulguées par lui-même et les empereurs qui l'avaient précédé. Et le livre qui en fut tiré fut nommé Codex, Code. Alors, le mot code est une notion qui nous vient du latin par une série de métonymies. Profitons-en pour parler de la métonymie. Alors, la métonymie est une autre figure de pensée différente de la métaphore. Elle consiste à désigner une chose par le nom d'une autre qui lui est liée par une relation réelle, effective, par exemple contenant contenu. On boit un verre. Bon, c'est typiquement une métonymie. Alors, au départ, codex désigne le tronc ou l'écorce de l'arbre. Puis les mots passent à l'objet fabriqué avec ce matériau, c'est-à-dire les tablettes de bois utilisées pour écrire. C'est une métonymie qui désigne l'objet en fonction de sa matière. Donc vous voyez, il y a un lien réel. Lorsque plusieurs tablettes sont assemblées et reliées, le terme en vient à désigner l'ensemble de ces tablettes. Puis, par extension, le cahier de la même forme, c'est-à-dire composé des pages superposées, même si ces pages ne sont pas en bois, mais par exemple en papyrus. Ce que nous appelons le codex, par opposition au rouleau. Là encore, il s'agit d'une extension métonymique fondée non pas sur la matière, comme la première, mais sur la forme. Donc le rouleau, les cahiers. Alors, j'imagine que vous vous dites, mais c'est un peu compliqué de comprendre. Et donc, je vous mets sous vos yeux. Vous voyez, c'est une sorte de métaphore, parce que c'est une image. Alors, donc, vous voyez ici, dans ce relief, un maître assis entre deux élèves, un troisième s'approche par la droite. Il s'agit du plus jeune élève qui, disons, rejoint ses frères aînés, et ce petit garçon tient dans la main un paquet de tablettes de cire. Son cartable. Il apprend à écrire. Tablette de cire, on peut aisément écrire et effacer. Les garçons plus âgés ont en revanche des rouleaux comme lecture pour un sujet d'enseignement. Donc, ils sont déjà avancés dans leurs études. Et ici même, vous voyez la différence entre un rouleau et les tablettes. Il s'agit de deux fresques qui se trouvent dans une villa à Pompéi, dans la salle de banquet. Clio, la muse de l'histoire, a un rouleau de papyrus, tandis que Calliope, la muse de la poésie épique et de l'éloquence, a des tablettes. Donc, un codex. Enfin, le mot codex en vient à désigner le recueil des lois. Alors, pourquoi ce passage ? Ce passage se fait par la métonymie la plus classique, allant du contenant, le livre en forme de cahier. Donc, le livre en forme de cahier avait reçu cette dénomination après toute cette série de métonymies, et à la fin, la dernière métonymie fait que le contenant, c'est-à-dire un recueil de lois, celui qui a été rédigé par Justinien et, il faut le dire, même avant lui, par Théodose II, un siècle avant, donc ces deux codes de lois, ces deux recueils de lois, dont le nom de code au recueil de normes aujourd'hui. Par exemple, le code civil. Alors, on pourrait continuer ce parcours, cette trajectoire du nom code, qui, parti pour décrire l'écorce de l'arbre, arrive jusqu'à désigner, bien évidemment, le code informatique. Dans ce dernier cas, il s'agit non pas d'une métonymie, mais, pour revenir à notre sujet, d'une métaphore qui transpose au domaine de la programmation informatique l'idée juridique de code comme ensemble de normes et d'instructions. Alors, c'est précisément le code de Justinien que je citerai à présent pour parler d'une constitution de Justinien lui-même qui est contenue dans son code. C'est une constitution du 530, notamment du 1er novembre 530. Alors, cette constitution contient une réforme du régime juridique de la dot. En droit romain, la dot désignait l'ensemble de biens que la femme ou une personne agissant pour elle, le plus souvent c'était son père, remettait au futur mari en vue du mariage, afin de contribuer aux charges de la vie conjugale. Bien que la dot passât sous la propriété du mari pendant le mariage, elle était dans la plupart des cas destinée à être restituée à l'épouse ou à sa famille lors de la dissolution du mariage, que ce soit par divorce ou par décès. Alors, deux actions pouvaient être exercées pour la restitution de la dot fondée sur des présupposés différents. L'actio rei uxorie naissait directement de la constitution, de l'acte même de la constitution de la dot, et laissait au juge une large appréciation fondée sur l'équité au moment de la restitution. À côté d'elle, l'actio stipulato reposait sur une stipulation, c'est-à-dire un contrat verbal, une promesse, et relevée du droit strict. Donc, les deux actions présentaient des différences de régime, notamment quant à la transmissibilité ou pas aux héritiers. Donc, il y a deux actions pour la restitution de la dot avec des différences tant quant à leur fondement quant à leur régime. Alors, on discute de savoir laquelle des deux actions a paru en premier, mais ce n'est pas l'essentiel ici. Ce qui importe, c'est qu'il existait deux voies différentes. Or, le droit n'aime pas le superflu. La loi de Justinien intervient précisément sur cette redondance. Alors, lisons là, vous savez que j'aime lire et interpréter avec vous les textes, en prêtant attention aux mots, parce que ce qui nous intéresse ici, ce sont les métaphores. Donc, je vous invite à les dénicher. Justinien Auguste, aux citoyens de la ville de Constantinople, aux habitants de toutes les provinces, nous n'attaquons pas dans le présent une chose minime, mais bien une chose répandue presque dans tous les corps du droit, tant à propos de l'action de la dot que de celle issue de la stipulation. Nous allons retrancher leurs points de contact et leurs différences et resserrer dans les seuls sentiers de l'action issue de la stipulation tout le droit de la chose dotale, au moins le droit que nous estimons digne de se maintenir en vigueur. Voilà la solution. Sur le plan strictement juridique, le texte met en scène la tension que je viens de décrire entre les deux actions. Alors, donc ça, c'est l'arrière-plan. Alors, l'ambition que l'on voit apparaître, c'est de réduire le système à l'unité. Alors, le texte s'ouvre par une entrée en jeu presque solennelle. « Rem in presenti non minimam aggredimur ». Le verbe « aggredimur » ne signifie pas simplement « traiter », mais « s'avancer vers », comme on s'engage sur un terrain difficile, presque comme on entre en combat. Le mot suggère l'ampleur et la difficulté de la tâche. Réorganiser le droit des juristes classiques tout en lui témoignant un profond respect. Le tour non minima relève de la litote et commence déjà par la voie de la négation à exclure qu'il s'agisse d'une question de peu d'importance. L'idée est aussitôt renforcée par la métaphore structurante du corps. In omni pene corpore juris effusam. L'ado s'est retrouvé partout dans les textes des juristes et la duplicité des remèdes, les deux actions, suscitait un malaise. Cette omniprésence presque capillaire est comparée au sang qui circule dans les veines, comme le suggère le verbe effusa, répandu. En ce sens, je dis que la métaphore du corps est ici une métaphore structurante, car une fois introduite, elle permet de produire d'autres images corrélées. Une fois le diagnostic posé et la gravité du problème dûment soulignée, le législateur, un bon médecin, annonce la thérapie. Cette image du législateur-médecin remonte au moins à Platon. Le verbe « resecantes », « retranchant », prolonge la métaphore corporelle dans le registre chirurgical. Le droit apparaît comme un corps susceptible d'incohérence et la tâche du législateur consiste à corriger ces pathologies par une intervention savante. Vient ensuite la métaphore du chemin, avec les mots « in unum tramitem ». « Trames » désigne le sentier, la voie tracée, parfois étroite, mais sûre. Et vous comprenez que cette idée de la voie est implicite dans le mot « droit ». À ce point intervient le terme décisif « concludentes », souvent affaibli dans les traductions. « Concludere » ne signifie pas seulement « conclure », conclure, disons, le texte, mais littéralement « fermer ensemble », »,« enclore », »,« resserrer ». Là où existait une pluralité de voies juridiques, parfois divergentes, le législateur et plus largement les juristes cherchent à canaliser la matière dans une seule direction. Et dans cette perspective, c'est l'actio stipulato, qui devienne la voie principale capable de porter l'ensemble du droit de la dot. Alors, après une phase marquée par une duplication, par un malaise superflu, nocive, vient donc le geste inverse. La réforme de Justinien canalise et resserre. Mais la dernière expression du texte est peut-être la plus subtile. « Quod dignum esse valere censemus ». Alors même que le système juridique fait l'objet d'une reconstitution plus cohérente sur les plans du procès, de la procédure, des actions, Justinien ne maintient pas sur les terrains du droit substantiel la totalité du régime de la dot. Seul est maintenu la part de ce régime façonné par les juristes classiques que Justinien est en train de recueillir, seule est maintenue la part jugée digne d'être sauvée. Le terme plus parlant est « valere ». Il signifie « être fort »,« être en bonne santé ». Et ce choix lexical réactive la métaphore du droit comme corps vivant appelé à rester sain. Ce récit métaphorique n'a pas seulement une valeur littéraire, quoi qu'il en soit, il est à la base de notre conception du code. Par exemple, le code civil, entendu comme un ensemble organique et cohérent des normes. Cette métaphore romaine, ce texte même, a offert un modèle particulièrement autorisé qui a pénétré la pensée médiévale et moderne et s'est perpétué jusqu'à nous. On pourrait dire qu'elle coule encore dans nos veines de juristes européens. Et on la retrouve, par exemple, lorsqu'on dit « le droit en vigueur ». Alors, voyons quelques prolongements de cette métaphore. Alors, il faut un intervalle. Alors, c'est une caricature célèbre d'Honoré Daumier. C'est une caricature qui remonte à la monarchie de Juillet, 1834. Et Daumier exprime évidemment ses convictions révolutionnaires républicaines. Alors, elle représente un hémicycle avec une assemblée de 35 hommes, divisée sur quatre rangées. Une répétition de la ligne souple et arrondie fait écho au titre de l'œuvre, du dessin, « Le ventre », pour donner aux élus un aspect grotesque et amoral. On comprend parfaitement. Ce que l'on remarque, j'ai jamais trouvé peut-être, vous savez, parfois on pense avoir trouvé des choses que les autres n'ont pas vues, mais je me suis demandé, mais pourquoi le ventre législatif ? Bon, le ventre législatif n'est qu'une métaphore par image d'une métaphore qu'on trouve dans le code civil, parce que c'est la métaphore du corps législatif. Donc il y a le corps législatif et il en parle comme du ventre législatif. Et justement, et je le dis en présence d'Alain Soupiot, qui nous fait l'honneur d'être dans cette salle, comme les juristes pensent que tout est dans le droit, donc vous voyez, il y a la possibilité de faire des interprétations aussi des dessins satiriques. Mais c'est plus que ça. Parce que il y a des prolongements métaphoriques qui sont à la fois dans l'Antiquité et dans le présent. Alors, d'abord, c'est Justinien lui-même qui, dans une autre loi, celle-ci, promulguée le 16 décembre 530, donc moins de 2 mois après la première que nous venons de lire, développa cette métaphore, celle du corps, du droit, en en déployant les implications. Il est fait dans une constitution emblématique, celle par laquelle il annonce la rédaction du digeste et donne à ses collaborateurs les instructions pour y procéder. C'est une constitution que l'on a l'habitude d'appeler « Deo auctore », c'est-à-dire « avec l'aide de Dieu », d'après ces deux premiers mots, comme on le fait aujourd'hui pour les encycliques du pape. Qu'ainsi, dans tous les membres du code soudit, c'est-à-dire du digeste, c'est Justinien qui parle, il s'adresse au compilateur, et donc il ordonne qu'ainsi, dans tous les membres du code soudit, du digeste, aucune antinomie, car c'est ainsi qu'elle est nommée depuis l'Antiquité par un vocabole grec, ne revendique pour elle-même quelque place, mais qu'il y ait une seule concorde, une seule cohérence, puisqu'aucun adversaire n'a été constitué. Alors, pour bien comprendre ces mots, il faut encore une fois penser qu'il s'agit d'une instruction que Justinien adresse au commissaire qui s'apprête à sélectionner les écrits des juristes pour composer ce que deviendra 3 ans plus tard le digeste. Alors, ici apparaît, je vous disais, c'est un développement de la métaphore du corps, mais c'est où le corps? On ne le voit pas, le corps, ici. Oui. Je pense que vous l'avez aperçu, mais avant de parler du corps, on parle de l'antinomie. L'antinomie, c'est un peu comme une déesse grecque, c'est l'ennemi de tout juriste, qui sème la discorde. Les juristes et les juges sont après tout au service de la norme, la bouche de la loi. Vous voyez, métaphore corporelle, encore une fois. Mais que faire lorsqu'il y a 2 maîtres, lorsque des normes entrent en conflit? C'est l'antinomie. Donc, lorsqu'il y a 2 normes en conflit, à laquelle obéir? Remarquons dans le texte un mot clé, les membres. C'est ici qu'on voit le prolongement de la métaphore corporelle. Et pourquoi c'est important ici? Parce que justement, si le droit est un corps, il faut qu'il y ait une harmonie entre ces organes. Il ne faut pas qu'il y ait un conflit interne. Donc vous voyez, l'idée d'antinomie, des conflits des normes, est transposée dans cette métaphore du corps qui doit être équilibré et ses organes être, disons, collaboratifs et non pas un conflit. Mais Justinien ne s'arrête pas là. Après la métaphore du corps, il la mobilise une autre, puisé dans le lexique juridique lui-même. Renversement remarquable, le langage du droit, habituellement façonné par des métaphores, devient lui-même créateur de métaphores. Justinien affirme que l'antinomie, c'est-à-dire le conflit entre normes, ne peut revendiquer aucune place dans le digeste. Revendiquer aucune place dans le digeste. Revendiquer est le terme technique qui désigne l'action par laquelle on réclame en justice une chose que l'on estime nous appartenir. Un bien, un terrain, un lieu où se tenir. Or, non, l'antinomie ne peut revendiquer aucune place dans le digeste. Il n'y a de place là que pour la concorde et la cohérence. Mais la métaphore judiciaire ne tient pas un seul mot et se prolonge dans la formule finale « nemine adversario constituto ». Le mot « adversario »,« adversarius » signifie la partie adverse dans un procès. La métaphore dit donc ceci, les compilateurs de Justinien ne doivent jamais placer dans le digeste, face à une norme, une autre norme qui lui soit adverse. De cette façon, il n'y aura antinomie, mais seulement concorde, pas de litige. Et pourquoi Justinien mobilise une métaphore judiciaire après celle du corps? Parce qu'elle implique, cette métaphore judiciaire, implique et suggère une autre idée de fond, qui est aussi la nôtre. Lorsque le droit contient des normes contradictoires, les litiges se multiplient. Chacun peut invoquer une norme différente. Au lieu d'apaiser les conflits, le droit risque alors de les attiser. Et si les normes sont claires, exemple d'antinomie, il y aura aussi moins de litiges et des procès dans la vie réelle. Donc, cette métaphore est un hymne à la sécurité juridique. Mais en passant de la première constitution, celle sur la dot, à celle-ci, consacrée aux antinomies, Une autre transformation encore apparaît. Justinien parle ici du digeste lui-même, on l'a bien compris, où il ne faut pas que les compilateurs introduisent des antinomies. Les corps du droit, c'est-à-dire il ne pique pas de deux écrits différents de deux juristes, Ulpien et Papinien, deux textes qui soient en conflit, parce que les juristes avaient des opinions différentes, bien évidemment. Alors, il ne faut pas qu'il y ait des antinomies dans le digeste. Mais s'il parle du digeste, il en parle comme un corps, parce qu'il parle de membres du digeste. Il y a ici une autre transformation. Le corps du droit n'est donc pas seulement de manière abstraite le système juridique, mais il est aussi un texte. Nous assistons ici à la transformation du droit en un texte, fondamental pour notre pensée juridique. Nous avons, nous aussi, tendance aujourd'hui à considérer le droit sous la forme d'un texte, mieux comme un gigantesque corpus de textes. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le penser, mais la plupart des juristes ont tendance à le penser comme ça. Alors, pour vous convaincre, et c'est la dernière vraiment partie de cette séance, pour vous en convaincre, il suffira de penser que la métaphore du droit, en tant que corps vivant, a eu aussi une autre conséquence. Elle a fini par donner son nom à l'ensemble de la codification justinienne. On dit habituellement que ce fut seulement Denis Godefroy, un jurisconsulte né à Paris qui se réfugia à Genève, ayant embrassé la réforme, qui donna ce nom à la compilation de Justinien, dans son édition de 1583. Donc, on dit qu'avant, on ne pensait pas au texte de Justinien avec ce nom. En réalité, on commence déjà à le comprendre, cette dénomination, cette métaphore flottait déjà dans les textes de Justinien eux-mêmes. Donc, Godefroy n'a fait autre chose qu'écouter attentivement, comme je vous invite à le faire, le texte de Justinien. Alors, on va le voir très rapidement. Vous savez que le digeste, après avoir été publié par Justinien en 533 et avoir connu un grand succès, surtout en Orient, sombra en Occident à partir du 7e siècle. Il fut redécouvert d'une manière en quelque sorte encore mystérieuse autour de l'an 1000, d'abord à Pavie, que j'évoque avec une certaine émotion, puis à Bologne. À Bologne, on commença à le commenter. Et autour de la fin du XIe siècle, la lecture du digeste donna naissance à l'institution même de l'université. Modèle qui se diffusera ensuite dans le monde entier. Donc, naissance de l'université strictement liée à la lecture du digeste. L'intensité de ces lectures et de ces commentaires fut telle que vers 1250, un juriste qui enseignait à Bologne, à Curse, décida de réunir les principaux commentaires sous forme de notes à la marge du texte, dans ce qu'on appelle la magna glossa, la grande glose. Alors, vous en voyez ici une édition moderne. Le texte du digeste est entouré de gloses ordonnées par Curse. Et elle porte déjà, vous voyez à gauche, le titre général divulgué quelques années auparavant par Godefroy, Corpus Juris Civilis. Voici une version plus ancienne, en partie avec des gloses qui précèdent à Curse et qui ont été rajoutées par la suite. Il s'agit d'un manuscrit du digeste conservé à l'université de Padoue, écrit au XIIe siècle, où les gloses sont, pour ainsi dire, tatouées sur le corps du droit, qui n'est pas par hasard orné aussi de signes anthropomorphiques. Pas seulement le grand personnage, mais il y a des petites mains, des visages. Donc vous voyez que cette transformation engendre aussi une retransformation en arrière, ou, si vous voulez, une sorte de transformation réelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un paratexte. Vous voyez le texte interne et ensuite tout l'appareil du paratexte. Il y aura un colloque dans quelques semaines ici au collège consacré au paratexte, aussi dans le texte juridique. Alors, parmi les gloses d'Accurs, une glose qui s'accroche à un des textes qui sont ici compris dans cette page, il y a un texte, il y a une glose que nous allons rapidement lire. Alors, il dit, faut-il penser, par cette raison, que quiconque veut être jurisconsulte ou expert en droit doive étudier la théologie? Réponse, non, car tout se trouve dans le corpus juris. Omnia in corpore juris inveniuntur. Tout se trouve dans le corpus juris. Comme par exemple dans le titre, donc vous voyez un certain nombre de titres qui sont indiqués. Alors, du point de vue formel, vous voyez apparaître ici la formule corpus juris, qui est tirée de notre constitution de Justinien, celle qui parle de la dot, et que 3 siècles plus tard, après Accurs, Godefroy utilisera à son tour. Donc vous voyez cette métaphore flotte dans tous les textes. Ce gigantesque, le droit, c'est un intertexte, disons, inépuisable. Quant au contenu, cette phrase a eu un destin curieux. Il faut que je le dise. Essayons d'abord de comprendre d'où vient la question. Le texte du digeste que Accurs est ici en train de gloser, notamment du juriste Ulpien, affirme que le droit est la connaissance des choses divines et humaines. Donc vous voyez le texte en tête, donc c'est le texte qu'Accurs est en train de gloser. Donc il est en train d'expliquer à ses auditeurs qu'est-ce que ce texte veut dire. Et comme ce texte, vous voyez, dit que la jurisprudence est la connaissance des choses divines et humaines, la science du juste et de l'injuste, bon, les juristes, parfois, disons, sont fiers de ce qu'ils font. Donc, la jurisprudence, la connaissance des choses divines et humaines. Donc, il se pose cette question qui n'est pas déraisonnable. Est-ce qu'il faut, donc, pour être un bon jurisconsulte, faut-il étudier la théologie? Réponse, non. Tout se trouve dans le corpus. Alors, qu'est-ce qu'on tire normalement de cette réponse? Que le droit romain suffirait à lui-même. Et ce propos devient un slogan parfait à plusieurs usages. D'une part, on l'utilise pour critiquer, voire se moquer même, de ceux qui pensent que le droit romain a déjà tout résolu. Bon, il y a des gens qui pensent que le droit romain a tout résolu. Et si vous lui demandez qu'est-ce qu'il en pense, in omnia sunt, omnia inveniuntur in corpore juris. Donc, pour un romaniste, ça peut être même disons, une sorte de, disons, d'affirmation de l'autosuffisance de sa science. Mais d'autre part, plus sérieusement, ce slogan devient le slogan des juristes de toutes les époques pour proclamer leur autosuffisance en tant que juriste. Comme symbole de la toute-puissance de la pensée juridique, avec des retombées pratiques. Alors, d'abord, si le droit est un texte, il suppose des interprètes. Mais si les interprètes doivent partir de l'idée que tout est dans le texte, ils doivent d'abord assumer qu'il n'y ait pas de lacunes Donc, on ne peut pas ne pas répondre à une question juridique, parce que dans le texte, il y a tout. Ensuite, comme dans le texte, il y a tout, mais ce texte est un corps, il faut éliminer par l'interprétation les antinomies. Donc, vous voyez que cette métaphore et cette idée du corps du droit qui contient tout a des retombées très fortes sur la façon dont on interprète les textes. Ce n'est pas un mince résultat pour une petite glose, il faut l'admettre, mais si l'on revient au texte d'Accurse, on s'aperçoit que son sens n'est pas exactement celui qu'on lui prête. Ce qui est habituellement omis lorsqu'on évoque ce passage, c'est la deuxième partie. Accurse mentionne certains titres spécifiques du Code Justinien, dans lesquels sont rassemblées de nombreuses normes concernant l'Église, mais aussi la foi catholique. Donc vous voyez, il y a toute une liste de titres. Il dit, est-ce qu'il faut étudier la théologie? Non, parce que dans le code de Justinien, mais même dans le digeste, dans les authentiques, il y a beaucoup de titres qui s'occupent justement de l'Église, de la foi catholique aussi, de la théologie. Donc, ce n'est pas une déclaration générale d'autosuffisance. Elle indique de manière précise qu'en matière ecclésiastique et théologique, il existe dans le corpus juris des normes qui offrent aux juristes la connaissance des choses divines dont parle Ulpien. Peut-être que interpréter ainsi les propos d'Accurse fait moins d'effet, je l'assume, car les formules percutantes importent davantage d'adhésion, mais l'histoire du droit a besoin de détails. Et ici, ces détails, ces citations de titres consacrées à la théologie sont essentielles. Cela signifie aussi que, vous voyez, les textes juridiques sont soumis à une pression interprétative énorme qui les adapte à ce qui est le plus utile et pertinent au moment où ils sont interprétés. Ce ne sont pas des textes comme les autres. Ce sont des textes qui servent à des buts pratiques, donc ils sont soumis à une interprétation très puissante. L'historien du droit, au contraire, a le devoir épistémologique de les ramener à leur signification originelle, contextuelle. Reste une dernière conséquence. Concevoir le droit comme un corps autosuffisant tend à l'enfermer dans son technicisme. Nous faisons ici, dans ce cours, le pari inverse, croiser les disciplines pour les rendre plus intelligibles, car l'analyse des métaphores mobilisées par les juristes n'a rien d'un simple exercice de style, elle mène droit au cœur du droit, c'est-à-dire aux idées fondamentales qui animent les juristes et se transmettent de génération en génération. Et si on repense aux paroles de Philodème, celle que le Vésuve n'a pas réduite au silence, on comprend qu'il avait vu juste. Je vous remercie et je vous attends à la prochaine semaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.